Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel au micro Yves Bastide pour l'émission « Les coulisses de la mémoire ». Je voudrais évoquer aujourd'hui un livre écrit par Michel Serrault. Michel Serrault, je pense que beaucoup d'entre vous voient de qui il s'agit. Je rappellerai simplement qu'il a remporté d'un César à trois reprises, qui en fait une exception dans le monde du cinéma français, à trois reprises pour des films aussi différents que La Cage aux Folles, Garde à vue, Nelly et Monsieur Arnaud. Voici dans ce livre qui s'appelle « Vous avez dit Serrault » l'introduction. Je jouais Knock au théâtre. À la fin de la soirée, certains spectateurs venaient me voir pour me dire qu'ils avaient passé un bon moment, ils étaient contents et moi, heureux. Un jour, une dame me déclara « Oh, excusez-moi de vous dire ça, Monsieur Serrault, mais vous m'avez tellement fait rire. » Je répondis « Ne vous excusez pas, madame, je l'ai fait exprès. » C'est là toute ma philosophie et la manière dont j'ai conçu mon métier. Je veux faire rire, donner du métier, offrir des émotions, donner. Voilà le mot le plus important. C'est affaire de générosité, bien sûr, mais surtout d'authenticité. Car je crois, en toute humilité, que ce qu'il y a de plus sincère en moi, je l'ai donné, je continue de le faire, après plus de 55 ans de théâtre et de cinéma. J'ai fait exprès de vous faire rire, de vous émouvoir pendant toutes ces années, et quand vous me croisez dans la rue et me remerciez d'un sourire ou d'un mot, vous n'imaginez pas comment mon cœur s'emplit de joie. Alors, évidemment, Serrault, on pense peut-être, je dis bien, peut-être d'abord à La Cage aux Folles, un succès au théâtre considérable, et puis repris au cinéma à deux reprises. Mais on oublie que Serrault a commencé au cabaret, comme beaucoup de comédiens de cette époque-là. Et il faisait avec Jean Poiret, son complice de toujours, un numéro de duettiste dont voici un extrait. Donc il faut imaginer un cabaret Poiret-Serrault. Vous avez vu le docteur Carlin ? Oh oui, heureusement. Très bon médecin généraliste. Ah ça, c'était avant. Maintenant il est spécialisé. Il ne fait plus que le doigt. C'est un docteur en doigt, si vous voulez. Ah, première nouvelle. Et quand je dis le doigt, attention, il ne fait que l'auriculaire. Ah, et vous avez l'auriculaire déficient ? Oui, mais il connaît son affaire, Carl. Remarquez, c'est mieux quand ils connaissent. C'est sûr. Quand je suis arrivé, il m'a demandé d'ôter mon gant, ce que j'ai fait. On perd toute pudeur devant ces gens-là. Pensez, oh, ils ont l'habitude. Ils voient tellement de doigts nus, ils ne font plus attention. Ça a duré 4 heures quand même. C'est bien. En 4 heures, on a le temps de faire le tour d'un doigt. Il a bien examiné mon auriculaire et puis m'a fait une lettre pour un de ses confrères spécialistes. Encore un ? Oui, de la deuxième phalange. Parce que Carlin, il ne fait que la première. Vous êtes allé consulter un spécialiste de la deuxième phalange ? Oui, à Varsovie. À Varsovie. Il est polonais, sauf que Varsovie, ce n'est pas la porte à côté. Mais la sécurité sociale ne vous a rien remboursé ? Si, 27 kilomètres en troisième classe. Il ne faut pas perdre de vue quand on voit un film joué par Michel Serrault, qu'il a vraiment commencé, comme beaucoup d'autres acteurs de sa génération, il a vraiment commencé par le contact direct avec le public. Cela dit, je voudrais, au fil de ce livre écrit par lui-même, vous citer quelques portraits qu'il trace des gens qu'il a fréquentés. Voici par exemple ce qu'il dit de Brigitte Bardot. J'ai toujours beaucoup aimé cette femme. sa gentillesse, son intelligence, et ne parle pas de sa beauté. Elle a joué de façon vraie, spontanée, contrairement à ce qui était répandu par des écrits et des ratés professionnels. Je peux, il me semble, juger de la qualité d'une actrice aussi bien et sans doute mieux que j'affirme que Brigitte Bardot a été une grande comédienne. Humainement, elle est une femme formidable. Il lui a fallu une sérieuse carapace de courage pour résister à la méchanceté, à l'injustice qui l'ont accablée. Brigitte, je vous fais un petit salut amical et vous demande comment je dois faire pour marquer mon autorité auprès du brillard de ma petite fille, car c'est moi qui vais le promener. Voici à présent un hommage aussi à l'un de ses complices qui a eu un succès considérable. Je veux parler de Francis Blanche. C'était un homme incroyable, doué pour la poésie, la musique, la cuisine, la comédie, la farce, tout, pourvu que ce soit énorme. Tout, pourvu que sa démesure dégénère en panique. Francis Blanche était un ami de Poiré et Serrault depuis nos premières tournées sur la Côte d'Azur où il avait une maison. C'est lui qui, après avoir ri à nos antiquaires, nous avait proposé de rebaptiser le sketch Sodome et Commode. À Paris, on le voyait souvent et pas uniquement pendant les tournages. Lorsqu'il nous baladait dans sa voiture américaine, il inventait des chansons qu'il entonnait à tue-tête. Il improvisait des textes poignants de poésie ou alors il cherchait et trouvait dans la seconde des slogans dont il se servait par la suite sur scène ou à la radio. Un jour, il s'est arrêté pour demander aux passants de signer une pétition intitulée « La chasse à la baleine, c'est assez ». Nous l'avons vu sur le boulevard des Capucines, debout, au volant de son American en marche, affoler les gens en criant « Comment ça s'arrête ? Comment ça s'arrête ?» Francis était un enfant surdoué, un charme fou et un esprit vache à faire peur. Il faisait partie, je crois, de ces gens qui nous ont été prêtés et qui nous sont repris un jour, peut-être parce que nous n'avons pas su les aimer assez. Alors maintenant, je vais vous proposer de revenir en 1973, une année importante parce que c'est l'année où Poiré et Serrault créent l'événement en jouant au théâtre La Cage aux Folles. Alors, l'extraordinaire aventure de La Cage aux Folles n'a pas commencé plusieurs mois avant sa création, le 1er février 1973, mais un soir de novembre, en 67, Jean-Paul et moi étant allés ensemble à la première d'une pièce, L'Escalier, joué par Paul Meurice et Daniel Hivernel. C'est formidable cette histoire de deux vieux homos qui s'envoient des vacheries en pleine gueule toute une soirée. Ils sont malheureux et gris, mais en même temps c'est drôle. Un thème semblable traiterait en franche comédie, ce serait plus marrant. J'ai envie d'écrire ça, Michel, une pièce pour toi. L'argument de La Cage me semble connu, y compris de ceux qui ne l'ont pas vu. Georges et Albin forment un ménage, tiennent une boîte de travestis à Saint-Tropez, La Cage aux Folles. Albin est sous le pseudonyme de Zaza Napoli, la vedette du spectacle. Comme toutes les stars, elle est capricieuse, un peu jalouse et excentrique. Cage aux Folles quand le malheur absolu me frappa. La pire douleur pour un père. Un soir de 1977, tout près de chez nous, à Neuilly, ma fille, Caroline, fut victime d'un accident de voiture et perdit la vie. Elle avait 19 ans. C'était une belle jeune fille, vive, sensible, douée. Tous les parents qui ont connu ce drame comprendront ce que je veux dire en affirmant qu'on ne sait pas ce qui arrive dans ces moments-là, on ne sait pas. Un gouffre s'ouvre sous vos pieds, tout bascule, tout se dérobe. J'ai songé que Dieu m'envoyait un châtiment, mais quelle dette était assez élevée pour justifier pareille souffrance. J'avais fait le métier dont j'avais rêvé, j'avais réussi. J'aurais tout donné de moi et ma vie en premier lieu, mais Dieu ne pouvait exiger que ce soit ma petite Caroline qui s'en aille. Il ne pouvait me punir aussi, moi qui croyais en lui. Pourquoi moi? Pourquoi notre famille? Question naïve, que peut-on comprendre? Le désespoir était prêt à m'accueillir. Je trouvais la force de le refuser précisément parce que je crois en Dieu. Il venait de placer sur mon chemin la plus grande épreuve qui soit pour un père. Mais si je croyais en lui, je devais poursuivre ce chemin. Je me suis rapproché d'autres parents qui avaient connu le même malheur. Je me suis vu infiniment petit. Parmi ces millions de gens dont la peine était aussi forte que la mienne, non, je ne désespérerai pas parce que la vie éternelle, quand l'amour de Dieu nous aura rachetés de notre misère, est ce que j'attends. J'ai eu il y a pas très longtemps l'occasion de rencontrer un prêtre orthodoxe, un homme remarquable d'intelligence et de bonté. Nous avons parlé de ma fille, il m'a dit qu'il prierait pour elle. Il m'a demandé quand Caroline était née au ciel. Au-delà de la grande et simple beauté de cette expression, il y a cette vérité de la vie éternelle de Dieu qui vous aime. Voilà ce qui me fait espérer chaque jour, avancer un peu plus. Je ne sais si ma réaction, ma réflexion a été une forme de courage et de dignité. Le courage, je l'ai vu chez Nita, mon épouse, c'est elle qui m'a tenu la main. Son chagrin ne s'estompera jamais. Mais quelle force, mon Dieu, quelle admirable force vous lui avez donnée. Je ne me suis pas arrêté de travailler. Un homme de la terre serait allé cultiver son champ, soigner ses bêtes. Je suis allé jouer. Une pièce comme la cage, j'attendais les salles que mes extravagances faisaient rire. Mais à chaque sortie de scène, je m'effondrais dans les bras d'un régisseur ami pour pleurer. Et je rentrais à nouveau sous les lumières. Les après-midi, j'étais au Feinbach pour la télévision. Peu après le drame, la première scène à tourner fut une scène d'enterrement. Je passais des heures derrière un cercueil. Très gentiment, le réalisateur me proposa de renoncer. Je le remerciais en lui disant que ce n'était pas moi qui étais là, mais un personnage. Et ne pas le jouer, quoi que fasse ce personnage, je n'aurais rien à ma peine. C'était même en faisant mon travail que je respecterais mon chagrin. Michel Audiard avait perdu son fils François 2 ans plus tôt, également dans un accident de voiture. Il m'a téléphoné après la mort de Caroline. Nous avons échangé que des silences. La douleur avait cimenté une fraternité trop forte pour les mots. Notre partage passait par un regard, une main sur une épaule, quelque chose d'imperceptible à d'autres que nous. Ce que la profonde pudeur d'Audiard exprimait en ces instants, je le savais. Tu souffres, comme moi. Tu ne t'en remettras jamais, comme moi. Alors, on ne va pas en parler. Mais mon cœur, ma présence, mon regard, mon âme te disent que je vis avec toi. Et que demain nous attend. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.